Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est midi et demi, pile. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Un plan à 30 milliards d'euros pour réindustrialiser la France. Emmanuel Macron vient de le présenter. 30 milliards pour quoi faire? 30 milliards qui viennent d'où? On verra ça avec Carole Ferry. Écoutez bien, si vous avez une voiture, le prix du litre de gasoil grimpe et bat un nouveau record. 1,53€ en moyenne. On sera en direct d'une station-service à Strasbourg et puis on sera également avec un spécialiste des carburants à qui je vais demander si les prix vont continuer à grimper ou pas. Ça vous est déjà arrivé peut-être de commander quelque chose sur internet et de ne jamais rien recevoir? Vous allez peut-être avoir une explication. Dans un centre Colissimo de Seine-et-Marne, deux intérimaires et deux complices ont été arrêtés. Ils volaient des colis. Comment s'y prenaient-ils? On va vous raconter cette histoire. Et puis la rencontre à 14h entre Gérald Darmanin et Monseigneur de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France. On a des informations sur ce que devrait proposer le ministre de l'Intérieur.
Europe 1.
Nucléaire, hydrogène, voiture électrique. Emmanuel Macron a présenté le plan qu'il a baptisé France 2030. C'est un plan pour réindustrialiser le pays. Carole Ferry, vous avez assisté au discours du président de la République. Bonjour Carole. Bonjour. A parlé de 30 milliards d'euros. Alors, sur combien de temps et pourquoi faire?
Mais écoutez, 30 milliards sur 5 ans pour que nous devenions tout simplement des leaders d'ici 2030 dans certains secteurs industriels clés. Première priorité, mieux produire, plus décarboné. Alors ça passe par la relance du nucléaire, mais aussi de l'hydrogène vert. Le chef de l'État veut également miser sur la mobilité verte avec 2 millions de véhicules électriques et hybrides d'ici 2030, mais aussi construire le premier avion bas carbone. Il a aussi mis en avant dans ses priorités le mieux vivre avec une agriculture plus durable, une priorité sur la santé, son objectif, avoir 20 nouveaux biomédicaments d'ici 2030. En parallèle, nous devons sécuriser nos approvisionnements, multiplier notamment par deux notre production de composants électroniques en France, pas seulement en Europe, et puis industrialiser plus rapidement les innovations de nos start-up. Les premiers fonds, 3 à 4 milliards, seront débloqués dès 2022 pour impulser le mouvement de l'argent levé sur les marchés. Alors qui pilotera tout ça? Eh bien le chef de l'État se laisse jusqu'à la fin de l'année pour peaufiner cette gouvernance.
Carole Ferry, merci beaucoup Carole. En attendant les voitures électriques pour tous et les voitures à hydrogène, près de 60% des voitures actuellement roulent encore au gasoil. Le prix du gasoil flambe donc, 1,53€ le litre en moyenne, c'est un record. Avant d'être en direct avec un spécialiste, on part tout de suite à Strasbourg retrouver Mélina Fachin dans une station-service. Bonjour Mélina.
Bonjour.
Les automobilistes se sont bien rendus compte que les prix s'envolaient, hein?
Oui, pour payer leur plein un peu moins cher, beaucoup d'automobilistes vont dans les stations-service de supermarchés. C'est là où je me trouve, mais le gasoil est tout de même à 1,50€ le litre. Nicolas, un peu désespéré, ne peut que constater cette explosion des prix en quelques mois.
Bah là, après le Covid, c'était plus à, allez, je dirais 45 et 50 euros le plein. Là, je tourne aux alentours des 60-70 euros. Du coup, maintenant, j'utilise la moto parce que déplacement plus rapide, consommation plus basse, mais ça revient tout aussi cher.
Serge, lui aussi, essaye de faire des économies comme il peut.
J'essaie de faire attention à ma conduite. J'essaie de passer sur de la conduite économique ou écologique, je ne sais pas comment on appelle ça, mais enfin voilà. J'essaie de m'adapter au maximum.
Et pour Mokhtar, qui dit augmentation des prix à la pompe, dit économie sur d'autres dépenses du quotidien.
Auparavant, je ne faisais pas attention pour la nourriture. Maintenant, il va falloir songer à diminuer, pas faire de folie, on va dire. Et les loisirs, c'est niet, hein, maintenant c'est fini. Quoi.
Certains automobilistes strasbourgeois préfèrent également aller faire leur plein en Allemagne. Mais là aussi, l'opération est de moins en moins intéressante. De l'autre côté de la frontière, le gasoil est passé de 1€ le litre à 1,30€ en quelques mois.
Mélina Fachin, merci beaucoup Mélina. C'est vrai qu'il y a un des automobilistes qui parlait de faire attention. Ça s'appelle l'éco-conduite. On lève le pied, on accélère un petit peu moins et on consomme moins, donc on fait des économies. Bonjour Philippe Chalmin, vous êtes économiste, spécialiste des marchés des matières premières. Pourquoi est-ce que ça grimpe autant le gasoil?
Tout simplement parce que le prix du pétrole, aspiré d'ailleurs par le prix du gaz naturel, se trouve à des niveaux relativement élevés. Lui, il est très loin de ses records, mais on est passé en quelques jours de 70 à pratiquement 84 dollars le baril aujourd'hui, et c'est ce qui explique les tensions sur l'ensemble des carburants, avec peut-être un petit plus pour le gazole, parce que il y a une plus forte demande aujourd'hui de ce type de fuel et autres, en particulier pour le chauffage, et étant donné, là encore, cette flambée que l'on connaît sur le prix du gaz naturel.
Et c'est vrai qu'on rentre dans l'hiver, donc ça y est, on remplit nos cuves de fuel pour ceux qui se chauffent au fuel. Est-ce que ça va durer ?
Bien malin qui peut le dire. Non, mais soyons sérieux. On peut s'attendre d'ici la fin de l'année à une fourchette que je vais vous faire très large, entre 60 et 100 dollars le baril. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a une assez forte pression sur les producteurs de pétrole de l'OPEP, ce qu'on appelle l'OPEP+, c'est-à-dire les gens de l'OPEP autour de l'Arabie Saoudite plus la Russie, d'augmenter leur capacité de production. Car pour l'instant, ils sont toujours très en dessous de leur niveau de production d'avant la pandémie. Il faut se souvenir que quand même, là je vous ai dit qu'on était à 84 dollars le baril aujourd'hui, on était à la fin avril 2020, on était tombé à 16 dollars le baril. Donc ils se sont battus, ils ont réduit leur production, et aujourd'hui ils rouvrent un petit peu les robinets, mais ils sont aussi assez tendus par la perspective éventuellement d'une quatrième vague du Covid. Donc ils sont précautionneux, sachant que, à mon sens, leur objectif de prix, c'est plus du côté de 70 dollars le baril. Il y a de fortes pressions aujourd'hui d'un certain nombre de pays industrialisés en leur disant « Mais bon Dieu, ouvrez un peu vos robinets ». Le feront-ils ? S'ils ne le font pas, avec les tensions sur le gaz naturel, on peut, et il y a un certain nombre d'analystes qui disent « On est à la fin d'année à 100 dollars le baril ». Moi, j'y crois pas. Et j'aurais tendance à dire, mais malheureusement je l'ai déjà dit par le passé, ça s'est pas vérifié, je pense qu'on est quand même un peu à un niveau de pic et que normalement on pourrait avoir au moins sur le pétrole une certaine détente d'ici la fin de l'année. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que si je ramène le gaz naturel en équivalent baril de pétrole, le gaz naturel, lui, il vaut aujourd'hui pratiquement 200 dollars le baril. Donc il faut quand même se rendre compte que nous sommes en face d'une crise énergétique majeure dont le déclencheur, pour une fois, a été le gaz naturel et pas le pétrole.
Nous sommes en face d'une crise énergétique majeure, nous a dit Philippe Chalmin. Merci beaucoup Philippe Chalmin, merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Cette flambée des prix de l'énergie inquiète de plus en plus de Français, c'est ce que révèle le baromètre du médiateur de l'énergie qu'Europe 1 vous dévoilait ce matin en exclusivité. Tous les indicateurs montrent que l'énergie est désormais parmi les premières préoccupations des ménages. Maud Descamps, vous êtes la spécialiste des questions d'énergie à Europe 1. Ce baromètre montre que de plus en plus de Français, et évidemment on en connaît, font attention avec le chauffage et baissent la température.
Oui, en effet, aujourd'hui, un quart des Français disent avoir du mal à payer leurs factures d'électricité ou de gaz. Et lorsque l'on zoome sur la tranche 18-34 ans, ils sont 46%, vous voyez, on est bien au-delà des 6 millions de ménages les plus modestes qui bénéficient aujourd'hui du chèque énergie. Je vous donne un autre exemple. 60% des Français déclarent avoir baissé le chauffage pour limiter leur facture d'électricité ou de gaz. C'est deux fois plus qu'il y a deux ans. Une hausse qui inquiète Frédéric Ferriot, directrice générale du médiateur de l'énergie.
Probablement qu'il y a un plus grand nombre de personnes qui ont des difficultés financières. Après, les gens ont été aussi peut-être plus souvent présents chez eux avec les confinements. On a eu beaucoup de télétravail et du coup, peut-être aussi que les personnes ont fait plus attention. Mais c'est vrai que c'est particulièrement frappant, ce doublement.
Et c'est pour les ménages déjà précaires que l'hiver s'annonce particulièrement difficile, malgré les aides annoncées par le gouvernement. Ces ménages consacrent en moyenne 10% de leur budget à leur facture énergétique.
Maud Descamps, 12h39. Restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, je vais vous parler de cette histoire de vol de colis dans un centre Colissimo en Seine-et-Marne. Restez bien sur Europe. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h42, un drame sur une ligne de TER près de Saint-Jean-de-Luz. Un train a percuté tôt ce matin 4 personnes. Il y a 3 morts et un blessé. Les victimes sont des migrants. Benjamin Péter, vous êtes avec nous, envoyé spécial d'Europe 1 dans les Pyrénées-Atlantiques. Benjamin, dites-nous, que sait-on de ce qui s'est passé ?
Eh bien, l'accident a eu lieu vers 5h du matin à Cibourg, à proximité de la gare de Saint-Jean-de-Luz. Ces personnes qui étaient apparemment allongées, peut-être en train de dormir sur la voie, ont été percutées par le TER en provenance d'Andaï. Il s'agirait en effet de migrants selon plusieurs sources. 3 d'entre eux sont morts sur le coup. Une 4e personne se trouve dans un état grave. Son pronostic vital est engagé. Âgé de 28 ans, il a été touché aux jambes et à l'abdomen et souffre d'une fracture du bassin. Alors le parquet a lancé une enquête de flagrance menée par le commissariat de Saint-Jean-de-Luz et la police judiciaire de Bayonne pour tenter d'identifier tout d'abord ces victimes et comprendre ce qu'elles faisaient là. L'hypothèse privilégiée est qu'elles arrivaient d'Espagne. Écoutez Eneco Aldana Duat, le maire de Cibourg.
On est à une 20aine de kilomètres de la frontière. On sait qu'on est dans une zone de traversée de migrants. On a affaire souvent à des présences de migrants sur les bords de route ou sur les bords de chemin de fer ou autoroute. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas si ces personnes-là étaient dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'ils venaient de traverser la frontière ou pas. Donc je pense qu'il faut être prudent, laisser le temps d'éclaircir ce qui s'est passé.
Alors en août, déjà un homme avait trouvé la mort en essayant de traverser la Bidasoa à la nage, le fleuve frontière entre les deux pays. Le trafic SNCF en tout cas, qui était interrompu ce matin, a pu reprendre petit à petit et les passagers choqués ont été ramenés chez eux ou vers la cellule d'aide psychologique de l'hôpital.
Benjamin Péter en direct avec nous. Merci Benjamin.
Europe Midi, midi 30, 13h, Romain Desarbres.
C'est toujours très agaçant, et c'est un euphémisme, quand on commande quelque chose sur Internet et que ça n'arrive jamais. Les vols de colis sont répandus et 4 personnes viennent d'être arrêtées. 2 intérimaires d'un centre Colissimo de Seine-et-Marne et 2 complices. Gladys Laffitte, service police-justice d'Europe 1. Bonjour Gladys.
Bonjour.
Gladys, vous avez enquêté. Comment opérait-il ?
En fait, tout a commencé par la découverte d'un colis pas comme les autres qui a donné l'alerte. Un colis reconditionné retrouvé dans ce centre de tri avec à l'intérieur plein d'autres petits colis. Alors après enquête interne à la Poste, ils ont découvert que 2 intérimaires les détournaient de manière très simple et très efficace. Ils enlevaient le code barre qui permettait de suivre le paquet, le remplaçaient par une autre avec une adresse « amie » entre guillemets où arrivaient et étaient stockés les colis volés. C'est justement dans ce logement qu'a été interpellé l'un des intérimaires. Il appartient à une personne en fauteuil roulant à qui le mis en cause faisait des soins. Il utilisait son sous-sol comme stockage. Les policiers ont retrouvé des barbecues, des ordinateurs, du matériel de puériculture, bref un peu de tout. Depuis le début de l'année, une 60aine de colis ont été volés pour un préjudice d'au moins 100 000 euros, dont 70 000 euros au détriment de la FNAC, dont les clients se plaignaient de plus en plus. Tous ces objets étaient ensuite revendus à des contacts. Un autre homme est d'ailleurs mis en cause pour recel. Il a une 30aine d'années, comme les 2 intérimaires.
Gladys Laffitte, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est vrai que se faire voler ses colis, c'est extrêmement agaçant. Accessoirement, c'est vrai qu'on perd du temps. Bon, ces quatre personnes seront jugées dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Gladys. Surprise, hier soir, alors que tout laissait penser qu'il allait concourir seul pour la présidentielle, et Dieu sait qu'en politique, tout peut changer jusqu'à la dernière minute, Xavier Bertrand a finalement décidé de participer au congrès des Républicains. Écoutez cette réaction, il y a quelques instants, de Valérie Pécresse au micro d'Alexandre Chauveau.
C'est effectivement ce que je souhaitais. Il ne faut jamais avoir peur de la démocratie en politique. Et donc, voilà, c'est une très très bonne nouvelle. Et ça permet enfin de commencer une vraie campagne sur le fond des sujets. L'objectif, c'est vraiment que la droite et le centre aient le meilleur candidat pour battre Macron. Et si vous regardez bien tous les candidats à ce congrès, eh ben, ça fait envie. Vous avez des personnalités qui, par leur parcours, par leur expérience, sont des professionnels de la politique, un peu tout le contraire du gouvernement d'amateurs d'Emmanuel Macron.
Alexandre Chauveau en direct avec nous. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Les Républicains ont tous leurs candidats désormais pour le congrès de début décembre. Ça y est, on peut dire que la campagne peut commencer, hein ?
Oui, vous l'avez entendu, c'est ce qu'a indiqué d'ailleurs Valérie Pécresse en déplacement dans l'Yonne aujourd'hui. Une campagne tournée vers les militants, car ce sont eux qui décideront de qui les représentera en 2022. La décision de Xavier Bertrand hier soir de finalement participer au congrès assure aux Républicains de n'avoir qu'un seul candidat, à l'heure où la gauche part plus que jamais divisée et où à droite, Éric Zemmour a fait chuter Marine Le Pen dans les sondages. Xavier Bertrand va donc devoir tenter de reconquérir des militants qu'il a quittés en 2017. Des militants qui lui en veulent, mais qui savent aussi qu'à l'heure actuelle, il est selon les sondages le candidat le plus à même de faire gagner la droite. Le président des Hauts-de-France sera opposé notamment à un Michel Barnier jugé sérieux et surtout plus fidèle et à une Valérie Pécresse qui mène depuis plusieurs semaines une campagne de terrain avec un programme travaillé sur l'immigration, le nucléaire ou l'éducation. Et dans cette équation à trois, l'ancien président du parti Laurent Wauquiez pourrait faire pencher la balance du côté de Michel Barnier. Les deux hommes s'apprécient depuis longtemps, tout l'inverse de la relation qui unit Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand.
Alexandre Chauveau, merci beaucoup Alexandre. L'Église et l'État, Gérald Darmanin reçoit à 14h, dans une heure et demie, une heure et quart, Monseigneur de Moulins-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France, au ministère de l'Intérieur. Une rencontre qui fait suite aux déclarations de l'homme d'Église sur le secret de la confession qui serait au-dessus des lois de la République. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Jacques, vous avez des informations sur ce que devrait proposer Gérald Darmanin, dites-nous.
Eh bien, selon nos informations, Gérald Darmanin devrait proposer au patron des évêques l'aide de l'État. Lui expliquer que le ministère de l'Intérieur, qui est aussi en charge des cultes, est prêt à aider l'Église catholique dans la lutte contre la pédocriminalité, en respectant bien sûr la séparation de l'Église et de l'État. Concrètement, Gérald Darmanin devrait promettre à Éric de Moulins-Beaufort une meilleure prise en compte des signalements et des plaintes dans les brigades de gendarmerie. Des engagements, mais pas de recadrage, comme certains pouvaient s'y attendre. La semaine dernière, Éric de Moulins-Beaufort déclarait que pour lui, je cite, « le secret de la confession est au-dessus des lois de la République ». Gérald Darmanin ne devrait pas revenir sur cette polémique, du moins une certitude, il n'ira pas aussi loin que le garde des Sceaux. Éric Dupond-Moretti avait parlé de l'impérieuse nécessité, même dans le cadre de la confession pour les prêtres, d'alerter sur les faits de pédophilie. Aujourd'hui, c'est dans une logique d'apaisement que Gérald Darmanin aborde ce rendez-vous. Il souhaite voir les bonnes relations entre l'État et l'Église perdurer. Pour lui, aussi bien que pour Emmanuel Macron, hors de question de se mettre à dos l'électorat catholique à 6 mois de la présidentielle.
Jacques Serret, merci Jacques pour ces informations. 12h49, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de la banque d'avenir. Les réseaux bancaires se réorganisent. Comment les banques réorganisent leurs relations avec nous, les clients? On en parle dans un instant avec Emmanuel Duteil. A tout de suite.
Europe Midi. Des arbres.
Il est 12h52. Deux grandes banques qui fusionnent, la Société Générale et le Crédit du Nord. Conséquence, on l'a appris ce matin, 3700 postes vont être supprimés sans qu'il y ait des licenciements. Les grands réseaux bancaires se réorganisent. Emmanuel Duteil avec nous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Chef du service éco d'Europe 1. Comment les banques réorganisent-elles leurs relations avec nous, les clients?
Et on va prendre l'exemple de Société Générale qui est très parlant. C'est une révolution en profondeur qui se prépare. La banque va fusionner ses deux réseaux de banques de détail, c'est-à-dire les agences Société Générale que l'on connaît tous et tout le réseau Crédit du Nord qui a des banques comme par exemple la Banque Tarnot ou la Société Marseillaise de Crédit. En 2025, il n'y aura plus qu'un seul nom pour toutes ces banques, tout va être unifié. Jusque-là, par exemple, les deux banques avaient deux systèmes informatiques différents. Une fusion qui va conduire à fermer de nombreuses agences, notamment quand il y a des doublons. Je ne sais pas si vous connaissez la rue Royale à Annecy. Je peux vous dire qu'au 9 de la rue, vous avez la banque L'Erdernier, qui est filiale du Crédit du Nord. Et au 9 bis, donc juste à côté, une Société Générale. Demain, bien évidemment, vous n'aurez plus qu'une seule banque. Du coup, d'ici 4 ans, la nouvelle banque aura 1450 agences contre 2100 aujourd'hui. Et ce mouvement est très symbolique parce qu'il s'inscrit dans la tendance actuelle. On va de moins en moins en banque. Le Covid a encore accéléré le mouvement et de façon quand même très très nette puisque même ceux et notamment les plus âgés qui continuaient d'aller en banque, bah là ils ont bien été obligés de passer au numérique. Et quand on passe au numérique, on y reste. Et pourquoi on va en agence maintenant ? Uniquement pour gérer les gros dossiers comme les prêts immobiliers. Et a priori, on n'y va pas tous les mois pour cela. Toutes les banques repensent donc leur modèle et toutes vont dans le même sens. Moins d'agences, plus de conseils et de personnalisation quand on y va. Quitte à rendre payant certains conseils plus haut de gamme. Ça, c'est notamment BNP Paribas qui est en train de l'inventer, si je peux dire, mais il y a des inventions dont on se passerait bien.
Merci beaucoup, Emmanuel. 12h54. Je ne sais pas si Neymar, dont on va parler, va souvent au guichet de sa banque. En tout cas, il doit être bien accueilli, à mon avis, par son banquier Neymar. Il pourrait arrêter sa carrière l'année prochaine. C'est en tout cas ce qu'il dit à la presse. Jean-François Pérez avec nous dans Europe Midi. Jean-François, vous nous dites que Neymar a le blues. Pourquoi est-ce que Neymar déprime ?
Eh bien, c'est un avertissement teinté de SOS que Neymar a envoyé ce week-end. C'était en marge des matchs du Brésil en éliminatoire de la Coupe du Monde qui aura lieu l'an prochain au Qatar. L'attaquant du PSG a fait cette confidence inattendue au micro du média DAZN.
Je pense que la Coupe du Monde 2022 sera ma dernière. Je ne sais pas si j'aurai la force mentale pour continuer encore dans le football.
Alors au Brésil, ces propos ont provoqué une tornade médiatique. Neymar est la star de la sélection, toute la pression repose sur lui. Cela fait 10 ans que ça dure, mais il vit de plus en plus mal les critiques. Il s'est même fait traiter d'idiot par un commentateur de la télé dimanche. Usure morale donc et physique peut-être aussi, à bientôt 30 ans. Notre consultant et ancien joueur du PSG, Jimmy Algerino, a son idée sur la question.
Pendant 2 ans, il a eu de graves blessures, puis surtout de ne pas retrouver le meilleur niveau qui était le sien, peut amener chez lui une lassitude et se poser ce genre de questions. On sait que c'est un joueur qui a besoin d'être aimé, tout simplement.
À Paris, où le joueur est sous contrat jusqu'en 2025, on se veut rassurant. Le meilleur moyen pour que Neymar retrouve le sourire, c'est le jeu, les victoires. Autrement dit, le blues de Neymar pourrait finalement s'envoler comme les feuilles de l'automne.
Merci Jean-François Pérez. 12h56, justement, à propos d'automne. Le temps, tout de suite.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur. Au Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien ? Les Seychelles vous présentent la météo.
Le temps avec vous, Anissa Haddadi. Le ciel reste très couvert cet après-midi dans le nord-est. Hein.
Oui, c'est vrai que le ciel a beaucoup de mal à se dégager après les nombreux brouillards de ce matin. Et bien, des Hauts-de-France jusqu'à l'Alsace, en passant par la Bourgogne, la Franche-Comté, nous avons encore des nuages qui s'accrochent, qui sont épais, avec le long des frontières belges et allemandes, des petites averses hein, encore cet après-midi. Alors, dans le nord-ouest, de l'autre côté, là, en Bretagne, en Normandie, sur le centre-Val de Loire, la région parisienne, les brouillards se sont dissipés et ce sont les éclaircies qui prennent le relais cet après-midi. C'est une nouvelle fois au sud de la France. C'est vrai qu'on a vraiment une France coupée en deux. Hein. Donc au sud de la Loire, encore cet après-midi, de la Vendée jusqu'aux Pyrénées, du Languedoc jusqu'à la Côte d'Azur et même jusqu'en Corse, c'est là que le soleil va briller cet après-midi dans un ciel totalement dégagé. Avec, attention, toujours beaucoup de vent au bord de la Méditerranée. Nous avons du Mistral et de la Tramontagne jusqu'à 90 km/h hein, aujourd'hui. Les températures, quasiment comme hier, 14 degrés à Saint-Étienne, 16 à Clermont-Ferrand et Lille, 17 degrés à Dijon, 18 pour Paris et Lyon, 20 degrés à Bordeaux et Quimper, 22 à Marseille, 24 pour Ajaccio et la maximale 25 degrés pour Perpignan.
Merci Anissa, il est 12h57. Restez bien avec nous sur Europe 1 dans un instant. C'est la France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Nous, on se retrouve demain, midi et demi, pour un nouvel Europe Midi. Très bon après-midi sur Europe 1.